Paris France Afrique, l'émission de survie Île-de-France, tous les lundis 17h30-19h sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à vous, c'est Paris France Afrique ce lundi 5 avril 2010. On va commencer notre émission juste pour vous dire que on vous l'annonçait en début d'année, il y a une campagne qui est menée par la présidence française 2010, année de l'Afrique. On attendait un petit peu de nouvelles de cette campagne menée par le gouvernement. Et on peut trouver le dernier dossier et document du Monde d'avril 2010 qui entame les négociations hein, en indiquant que, paradoxalement, la dénonciation de la France-Afrique dans les années 90 s'est développée en même temps que sa réalité s'estompait. Donc c'est un article qui est très dans la lignée officielle, c'est-à-dire qu'on parle toujours de la France-Afrique dans les journaux en disant que la France-Afrique est morte. Donc continuez à écouter cette émission pour bien vous rendre compte que la France-Afrique n'est pas morte et que tout ça, c'est la propagande politique pour nous fermer les yeux sur ce qui se passe réellement. Donc cette année 2010 est l'occasion pour certains d'un bilan sur les 50 années des indépendances des pays africains. Pour survie, c'est surtout l'occasion de rappeler que derrière les discours officiels, la politique est bien souvent contraire aux paroles et que la lutte des Africains, si souvent passée sous le silence, est marquée par la couleur rouge sang. Nous projetons de faire plusieurs émissions sur des leaders africains de ces 50 dernières années et nous ferons prochainement une émission sur la campagne de survie intitulée 2010, libérons-nous de 50 ans de France-Afrique. La campagne que vous pouvez retrouver sur le site afrique2010.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du leader burkinabé assassiné le 15 octobre 1987, Jean-Noël Isidore Thomas Sankara. Leader charismatique, influent, ayant influencé beaucoup d'Africains et d'Européens qui le connaissent, il est une figure exceptionnelle dans le paysage politique africain de ces 30 dernières années et on peut même dire dans le paysage politique international. On a rarement eu nous-mêmes l'occasion d'avoir un leader qui a une liberté de parole et ton comme lui. Avec un discours sans langue de bois et une politique volontariste, il a tenté une recette détonnante qui reste une source d'inspiration pour l'Afrique. Nous allons essayer de voir avec le temps qui nous est imparti aujourd'hui un peu de cette politique dans ses réussites, dans ses échecs, ainsi que les raisons et les responsabilités dans sa disparition tragique. Nous avons l'exceptionnel privilège de nous appuyer sur des extraits sonores de sa dernière interview réalisée par Inga Nagel, journaliste allemande, le 4 octobre 1987, c'est-à-dire 11 jours avant son assassinat. Et nous avons avec nous dans nos studios Monsieur Bruno Jaffré, auteur de Burkina Faso, les années Sankara, de la révolution à la rectification, et de la biographie de Thomas Sankara, La patrie ou la mort. Trois petits points. Il est par ailleurs l'animateur du site thomassankara.net qui regroupe toutes les archives et les articles sur cet homme politique d'exception. Alors Bruno, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer cette émission en diffusant une chanson de Sam Skalodja. Tu voulais parler aussi de l'importance des discours des musiciens autour de Thomas Sankara.
Oui, c'est pour ça que sur notre site, nous avons commencé à rassembler un certain nombre de morceaux de musiciens qui souvent était très jeune pendant la Révolution. Cet homme politique est en fait une source d'inspiration, non seulement pour des musiciens, mais aussi d'ailleurs pour les danseurs, puisqu'il y a deux danseurs burkinabés qui tournent pas mal en France et en Europe, avec des spectacles donc, de danse contemporaine inspirés de Thomas Sankara et d'autres leaders africains.
D'accord.
Alors Sam Skalodja est un peu un symbole, je ne sais pas si je dois en parler maintenant ou après le morceau de musique. Il a donc fait un album consacré à Thomas Sankara, à l'approche du 20e anniversaire de son assassinat. C'est comme ça d'ailleurs que je suis entré en contact avec lui. Et il est aussi un animateur radio, enfin il est devenu assez rapidement un symbole de la jeunesse puisque, outre d'avoir fait cet album, il a animé des émissions qui étaient censées être des émissions de reggae, qui le sont d'ailleurs, mais en insistant aussi sur le lien entre cette musique qui était une musique d'engagement, selon lui, et de mobilisation, et la politique de son pays, émission dans laquelle il appelait en fait les jeunes principalement à se mobiliser pour changer. Et donc il a subi des menaces de mort, il en a subi plusieurs, les enquêtes n'ont toujours pas abouti. Il a des pressions pour ne plus parler politique durant ses émissions radio. Donc il en a créé une autre en parallèle. Et il participe à toutes les manifestations, à toutes les mobilisations populaires. Évidemment, il n'est jamais invité pour faire des concerts...
officiel,
voilà, parce que c'est une façon pour le pays, dans un pays comme ça où les artistes ont du mal à vendre leur musique, puisque les gens n'ont pas d'argent et n'ont pas l'habitude de payer pour écouter de la musique. Donc ils ont souvent des difficultés à vivre. Si on n'est pas invité dans les manifestations officielles où on est très bien payé, eh ben, on ne peut pas vivre de sa musique.
J'ai juste une question avant d'écouter cette chanson qui s'appelle « Une bougie pour Thomas Sankara ». Cette chanson dit qu'il est difficile de parler de Sankara dans le pays. Tu me disais qu'aujourd'hui, on en parle quand même davantage.
Alors, donc, il faut d'abord situer un petit peu cette chanson. Son album est sorti avant le 20e anniversaire. Donc, depuis quand même au Burkina, depuis un certain nombre d'années, on s'exprime à peu près librement, sauf donc avec des limites que les gens connaissent, puisque Sam Skalunja a été menacé de mort. Cela dit, le 20e anniversaire a été un peu une explosion dans ce pays, puisque c'est la première fois qu'il y a eu une telle... Il est fêté tous les ans au cimetière, mais là, il y a vraiment eu une campagne internationale et une mobilisation dans le pays extrêmement importante, et ça a fait un peu... éclater l'image de Sankara dans le pays, même si elle existait déjà, elle est un peu sortie, un peu plus, et les jeunes s'en saisissent. C'est vraiment une référence très importante pour l'ensemble de la jeunesse. Les touristes, le meilleur symbole, c'est un peu les touristes qui vont là-bas et beaucoup découvrent Thomas Sankara au Burkina Faso en visitant ce pays, parce qu'il est difficile de parler de ce pays pour les jeunes là-bas, de leur situation, sans parler de Thomas Sankara. Donc c'est vraiment... et ça, c'est un phénomène relativement récent, puisqu'effectivement, on a tenté de le supprimer dans l'histoire du pays et dans la mémoire des gens. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est un échec flagrant pour le pouvoir. Il y a évidemment les sites internet, mais il y a sa présence à travers donc des musiciens. Il y a donc Sam Skalunja, dont on va écouter le morceau. On écoutera un autre morceau un peu plus tard d'un rappeur qui s'appelle Smokey, qui sont les deux leaders en fait de la musique engagée au Burkina et qui sont en fait des vedettes dans leur pays.
D'accord, bah on va écouter Sam Skalunja, une bougie pour Thomas Sankara, tout de suite sur Paris France Afrique.
Africa, on te parle de Bigwe Mandela, mais pourquoi chez moi, Burkina Faso, on me parle pas de capitaine, mais pourquoi chez moi, in my country, on veut assassiner sa mémoire. Et pourtant, il fait partie des dignes fils de Maman Africa. Et pourtant, assez, il fait partie des freedom fighters pour la cause de Maman Africa. Allez, vas-y, ma fille, dis-le.
Je souhaite que l'on garde de moi l'image d'un homme qui a mené une vie utile pour tous. Je ne voudrais pas être un homme qui s'est battu pour lui-même, mais un homme qui s'est battu pour les autres et avec les autres pour gagner avec eux. Président Thomas Isidore Jean-Noël Sankara.
Nous ne pouvons pas être complices des fossoyeurs de Mama Africa. Nous ne pouvons pas être complices de ceux qui assassinent la mémoire. Et pourtant, il fait partie du patrimoine de ce pays. Et pourtant, assez, il fait partie des bâtisseurs de Mama Africa. Ah, 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 ça bat le découragement, c'est là s'élève la victoire des persévérants.
Vous êtes sur Paris France Afrique, l'émission de l'association Survie Paris qui lutte pour une amélioration de la politique française en Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de Jean-Noël Isidore Thomas Sankara, leader de la révolution burkinabé et président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Alors, une petite présentation du personnage. Il est né le 21 décembre 1949 et a été assassiné le 15 octobre 1987. Il était un jeune homme brillant, issu des classes populaires, attiré par la médecine et les eaux et forêts. Finalement, il s'est tourné vers la formation militaire qu'il rejoindra sur concours à 17 ans. C'est une époque où l'armée avait été portée au pouvoir par un mouvement populaire et portait l'espoir d'une moralisation de la vie publique. Et bien que cet espoir désenchantera rapidement, notons que le président de l'époque, Yamé Ogo, exigera dans le cadre de la défense de la souveraineté nationale le départ des soldats français et la fermeture de la base militaire de Bobo-Dioulasso. Dans son parcours, Thomas Sankara restera fortement imprégné par son expérience à l'Académie militaire d'Antsirabe de Madagascar. Désolé pour tous les malgaches, bonjour. Où il restera 4 ans et qui fondera une partie de sa réflexion panafricaniste et sa sensibilisation aux enjeux agricoles et à la formation des masses populaires. Il va arriver au pouvoir le 4 août 1983 à la suite d'un coup d'État militaire dans un pays qui porte alors le nom de Haute-Volta. Bruno Jaffré, tu es notre invité. Peux-tu nous parler des rapports que Thomas Sankara entretenait le pouvoir de 1981 à 1983 ? Était-il connu du grand public au Burkina ?
Alors, il était connu un petit peu pour des exploits militaires en 1974 où il y a eu un premier conflit militaire avec le Mali pour une bande de terre. Il était déjà très connu dans l'armée parce qu'il avait, en particulier dans la génération montante des jeunes officiers, puisqu'il avait entrepris de les rassembler d'abord sur des revendications, on va dire, un peu corporatistes, en tout cas pour qu'ils aient les moyens de former correctement les soldats dont ils avaient la responsabilité, pour qu'ils aient des moyens pour les nourrir correctement et pour que l'armée soit une armée en tant que telle. Donc, il était très connu dans l'armée et il passait petit à petit de revendications, donc de on va dire générationnelles, mais aussi des revendications un peu comme si identique à celle de syndicats, en fait. Mmh. Et petit à petit, à des revendications plus politiques. Ça va se faire au gré de ces rencontres. Alors, ce qui s'est passé, ce qu'il faut comprendre, c'est que la période 80-83 est une période qui a succédé à ce qu'on peut appeler une dégénérescence du pouvoir civil. Mmh. Il y a eu alors, c'est un des seuls pays où il y avait effectivement un pluralisme politique. On va passer sur des nuances. Et il y avait, par exemple, des crises parlementaires, ce qui, compte tenu de la pauvreté du pays, fait un peu anachronique. Mmh. Et donc, tous ces pouvoirs qui se sont succédés avec différents partis qui ont dirigé donc ce pays, mais aussi différents clans de l'armée qui l'ont dirigé successivement, a créé en fait une situation politique un peu explosive, dans la mesure où il n'y avait plus d'alternative parmi les partis officiels. Mmh. Et dans l'armée, il y avait des conflits dans l'armée, puisque ça restait un des moyens de sortir le pays de son marasme. Il y avait des conflits politiques au sein de l'armée. Donc c'est dans cette période-là qu'il y a eu un gouvernement militaire entre 80 et 82, donc qui avait d'abord suscité un certain espoir, mm-hmm. qui avait reçu d'ailleurs le soutien au départ du parti de Kizerbo, puisque c'était quand même ce gouvernement qui a entrepris des tournées dans les campagnes. Mm-hmm. Les militaires entreprenaient, en annonçant qu'ils allaient changer un certain nombre de choses, une certaine moralisation, puisqu'ils avaient interdit, je pense, la bière, si je ne me trompe de mémoire, dans les bars, puisque la bière est un problème, puisque les fonctionnaires ont pris l'habitude de quitter le bureau pour aller boire de la bière. Voilà. Et donc, dans cette situation, Sankara est sommé, en fait, plus ou moins obligé de devenir ministre de l'Information. Les gens qui gouvernaient ce pays, donc les militaires, c'était Saïe Zerbo, savaient l'aura qu'avait Sankara parmi l'armée. Et donc, et c'était en même temps pour faire comme s'il était du côté du pouvoir, mm-hmm. et en même temps pour le neutraliser. Mm-hmm. Donc, en fait, il a fini par accepter. Enfin, ça a créé pas mal de... Il a d'abord refusé. Et en fait, il a dit qu'il allait le faire pendant quelques temps. Mm-hmm. Et effectivement, il a démissionné au cours d'une conférence de presse où il a déclaré publiquement « malheur à ceux qui baillonnent le peuple ». Et donc là, de nouveau, sa popularité a explosé. Il faut savoir qu'il était connu dans les milieux d'extrême-gauche. Je pense que je ne sais pas si on en parlera un petit peu après, mais donc il était connu dans les milieux syndicats. Il y avait une génération montante qui, dans son ensemble, celle des couches moyennes des villes, qui est numériquement très faible, mm-hmm. mais qui, dans ce pays, fait l'essentiel de la politique, puisque dans les villages, c'est les chefs coutumiers qui décident, mais les décisions sont quand même prises à Ouagadougou. Donc il était déjà assez connu parmi les milieux d'extrême gauche qu'il fréquentait. Mm-hmm. Voilà un petit peu. Donc, on arrive donc dans une situation explosive. Et puis, il intervient, je ne sais pas si c'est
le moment.
Il y a un coup d'État dans lequel on essaye de le présenter comme en étant à l'initiative. Mm-hmm. En fait, il ne l'était pas, mais on est venu le chercher. Il était déjà, je crois, plus ou moins en résidence surveillée. Hein. De mémoire, on a été le chercher pour... faire comme si c'est lui qui était à
c'est
l'origine.
C'est le coup d'État de novembre 82 dont tu parles.
Voilà, novembre 82, donc d'accord. Un coup d'État, une nouvelle couche de l'armée qui fait qu'il ne reste en gros qu'une génération qui a à peu près le même âge, mais avec vraiment dans l'armée des gens qui aspirent. Donc ils étaient ensemble parce qu'ils aspiraient ensemble à la modernisation de l'armée, mm-hmm. et disons, on va dire, à la modernisation du pays. Mm-hmm. Mais il y a vraiment une branche qui est une branche de droite et une autre branche qui est une branche de gauche.
D'accord.
Donc, il devient... Il y a un coup d'État.
De la branche de droite.
Oui. Enfin, c'est plus compliqué. Il y a un coup d'État de cette génération.
D'accord.
Et en fait, le pays est gouverné par un... ça s'appelle CSP, comité, je ne sais plus ce que ça veut dire, Conseil de salut du peuple. Ça doit être quelque, mm-hmm. quelque chose comme ça, dans lequel il n'est pas... donc, il participe avec ses amis. Il y a Blaise Compaoré, mais il y en a d'autres. Henri Zongo et Lingani et d'autres militaires, ils participent à cette chose-là, mais ils n'en sont pas l'initiative. Dans l'état d'esprit de Sankara, il n'était pas prêt avec donc la frange de l'armée d'extrême gauche, on va dire révolutionnaire, extrême gauche, ça ne veut pas dire grand-chose, d'abord on va dire révolutionnaire. Il n'était pas prêt à prendre le pays parce que, de son point de vue, les organisations civiles révolutionnaires n'étaient pas prêtes dans la mesure où elles étaient écartelées entre elles et elles étaient en confrontation. Mm-hmm. Et donc, il va passer il va donc les inciter à s'unir. Je sais pas si je dois donner des noms, mais en gros, il y avait trois branches. Mm-hmm. Il y avait le PAI, l'IPAD. Le PAI était en partie clandestin. La LIPAD était une organisation, ce qu'on appelle une organisation de masse, qui avait eu pignon sur rue pendant un certain temps, mais qui avait été poursuivie dans le régime précédent, mm-hmm. puisque il y avait des dirigeants qui dirigeaient des syndicats qui avaient fait des grèves pour demander des libertés. Il y avait une organisation dirigée par Valère Sommet, qui va être un proche de Sankara, mais qui avait d'abord été dissoute parce qu'il avait été découragé et que Sankara lui avait demandé de reconstituer cette organisation parce qu'il était temps. Et il y avait une troisième branche qui s'appelait le Parti communiste révolutionnaire voltaïque, qui était une branche, on va dire, pro-albanaise et qui a toujours refusé de participer à la révolution, mm-hmm. avec le pouvoir. Voilà. Et donc, il a demandé, et donc, il a réussi donc à faire en sorte que, au moins, le PAI Lipat, qui est le plus important, et le parti de Valère Sommet travaillent ensemble. Et ça s'est concrétisé. Donc, après des discussions au sein de l'armée, il devient Premier ministre, je ne sais plus, en janvier, février, mm-hmm. quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et à ce moment-là, le conflit éclate publiquement. Mm-hmm. Le conflit de d'orientation.
Au sein de l'armée ?
Il éclate au sein de l'armée. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais il éclate publiquement dans la mesure où il y a des meetings populaires. Mm-hmm. Et le président, c'est Jean-Baptiste Ouédraogo, qui est quelqu'un de gentil, etc., mais qui n'est pas une tête politique, qui avait probablement été mis là parce qu'il était plus ou moins neutre, et que chaque côté pensait pouvoir le manipuler. Et donc, le conflit éclate dans des discours où Sankara fait des discours extrêmement révolutionnaires. Et en fait, il acquiert une popularité supplémentaire, en particulier l'ensemble de la jeunesse se sent porté par ce qu'il dit, et il est finalement mis aux arrêts le 17 mai 83, avec une coïncidence troublante, c'est celle de la présence de Guy Penn dans le pays, Guy mm-hmm. Penn étant qui va devenir le conseiller de Mitterrand, conseiller mm-hmm. à l'Élysée de Mitterrand. Donc il est arrêté, et manifestation populaire, vous voyez, c'est important. Ce qu'il faut bien souligner avant de passer, c'est que cette révolution, et Thomas Sankara, cette révolution n'est pas venue au hasard. Elle est vraiment la résultante et d'une crise politique qui résulte de l'histoire du pays, mais aussi de militants politiques qui combattent soit à travers les syndicats, soit à travers l'organisation clandestine, mm-hmm. pour augmenter la conscience du peuple et par des mobilisations populaires, puisque le 17 mai 83, donc ce sont essentiellement les gens du PAI de la LIPAD et un peu de Valère Sommet, puisqu'ils ont fait une réunion qui raconte tous les deux en voiture, etc., pour organiser ces manifestations. La jeunesse est sortie massivement, malgré donc le danger que ça représentait. Donc on avait vraiment une mobilisation et le vide politique. Mmh. Le vide politique, puisque le pouvoir était à prendre, puisqu'il avait, il était, chacun savait l'écartèlement, mais il y avait donc ces deux dernières fractions qui s'affrontaient, et donc c'était la dernière étape avant la révolution, et le fait d'arrêter Sankara était probablement le déclencheur de ce qui allait devenir la révolution, donc le 4 août 83, révolution qui a été préparée plusieurs fois annulé. Enfin, la prise du pouvoir, on va dire, la révolution étant un processus qui a commencé avant et qui va se continuer après. Donc, la prise du pouvoir qui se traduit concrètement par la descente de Blaise Compaoré avec des troupes. Parce que quand Sankara a été arrêté, Blaise Compaoré a mm-hmm. pu se réfugier à la tête de ses troupes, les commandos de Pau. Il avait pris la direction quand Sankara avait été pris comme ministre de l'Information. Donc, ils étaient extrêmement proches. Et donc, ils viennent. Mais même ce jour-là, les civils ont participé à cette prise de pouvoir. Il y en a plusieurs qui racontent. On a coupé les centraux téléphoniques, etc. Enfin, des gens, moi, j'en ai rencontré plusieurs qui avaient des fusils ce jour-là, qui ont guidé les militaires. Mais ça s'est effectivement traduit quand même concrètement par un affrontement, mmh. notamment autour de la maison de Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était le président, pour l'arrêter. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, Sankara avait négocié, parce que c'est quand même un personnage contradictoire et parfois paradoxal, mais en tout cas, il négociait.
Oui, il avait vraiment envie qu'il se soit fasse partie d'une union nationale. Pour lui, il fallait vraiment que, notamment, les conditions politiques soient réunies pour qu'il y ait une certaine volonté des partis de la mise en œuvre réelle de ce que lui considérait comme la révolution. C'était quelque chose qui devait être pris en main par l'ensemble de la population.
Alors, l'hypothèse que j'avancerais plutôt, c'est qu'il voulait éviter un affrontement militaire. Je pense que c'est plutôt... Et il essayait d'obtenir la reddition de Jean-Baptiste Draugo. Bon, j'ai plusieurs témoignages et il est difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ce qui est sûr, semble-t-il, il a demandé à Blaise Compaoré d'arrêter, d'avancer.
D'accord.
Mais que c'est, bon, ça ne s'est pas fait pour un certain nombre de péripéties. Et voilà.
Je vais juste préciser pour nos auditeurs que donc Blaise Compaoré, c'est un ancien compagnon de Thomas Sankara et c'est l'actuel président du Burkina Faso. Donc on va entendre tout au long de cette émission parler de son de l'évolution de ce personnage. Dans ton livre sur la biographie de Thomas Sankara, tu précises un moment que au moment de la prise de pouvoir du 4 août 83, apparemment Blaise Compaoré avait laissé entendre qu'il avait lui aussi des ambitions déjà à cette époque-là, des ambitions
voilà.
De pouvoir.
Alors bon, moi je prends ces témoignages. Le problème, c'est que la personne qui a entendu ça est décédée. C'est donc Vincent Siguet, qui est un personnage aussi...
Un fidèle de Sankara.
Voilà, un fidèle de Sankara, mais un peu une tête brûlée, un ancien mercenaire, etc. C'est un personnage qui pose problème, de toute façon. Le fait est qu'il a été tué... il a été tué le 15 octobre 87, il était rattrapé alors qu'il était presque sorti du pays. Donc c'est des paroles rapportées. Voilà.
D'accord, on n'en saura pas.
Est-ce vrai,
plus.
C'est vrai, j'en sais rien. Bon, c'est possible. Les gens, évidemment, qui en veulent beaucoup à Blaise, disent qu'ils voulaient prendre le pouvoir tout de suite. Mm-hmm. C'est pas non plus exclu. Le fait est, je pense qu'ils étaient en osmose tous les deux. Que, évidemment, Blaise Compaoré tente à expliquer, en tout cas ses hagiographes tentent à expliquer, c'est lui qui est à l'origine de la prise du pouvoir. Mm-hmm. Voilà comment ça s'est passé.
Chacun a sa version des faits.
Ce qui est sûr, c'est que cette prise de pouvoir était organisée de concert avec Sankara, qu'il y avait des quantités de gens qui transportaient des messages pour organiser les choses, qu'elle a été retardée plusieurs fois, et que voilà, et donc ça a été préparé.
Il y avait une certaine planification.
Voilà, et que ce n'est pas une initiative propre de Blaise Compaoré de venir ce jour-là, etc. Ça a été préparé tous ensemble.
D'accord.
Voilà.
Bon, on va laisser là pour la prise de pouvoir. On va écouter tout de suite Sankara dans l'interview qu'il a faite avec la journaliste allemande Inga Nagel, 4 octobre 1987, donc 11 jours avant sa mort, et qui explique ce qui l'a poussé à prendre en main le destin de sa nation. Et on passera ensuite la musique de Smokey, à qui profite le crime, à tout à l'heure sur Paris France Afrique.
Quand est-ce que vous avez décidé de prendre les choses en main au Burkina, en Haute-Volta?
À vrai dire, je n'ai jamais décidé, moi, de me présenter comme un dirigeant, à quelque niveau que ce soit. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans la clandestinité, puis plus tard, au grand jour, quand les événements m'ont imposé cela. Mais je n'ai pas choisi moi-même une position particulière que je devrais adopter. Bien au contraire, plusieurs fois, l'occasion s'est offerte à moi, mais plusieurs fois, j'ai refusé, que ce soit sous le CSP, bien avant, et même avant le CSP, mais j'avais toujours refusé ces fonctions, parce que j'estime que c'est le peuple qui fait, ça marche. Ce n'est pas un individu à tel ou tel poste. Et je pensais qu'au poste et au niveau où j'étais, je pouvais contribuer valablement et je n'avais pas besoin pour cela d'être à un autre niveau. C'est-à-dire que je pouvais contribuer par le travail politique qui permettait à d'autres de comprendre ce que moi j'estimais avoir déjà compris. Je pouvais travailler moi aussi à comprendre davantage là où mon niveau n'était pas suffisamment élevé. Je pouvais diffuser les idées, je pouvais contribuer à faire vivre cet idéal de justice et de droit de notre peuple.
Thomas Sankara semble bien avoir péri au cours des affrontements d'hier au Burkina Faso. Sankara qui aurait été enterré dès ce matin. Le coup d'État aurait fait d'ailleurs plusieurs dizaines de victimes.
Proclamation. Le Front populaire, regroupant les forces patriotiques, décide de mettre fin à ce jour 15 octobre au pouvoir autocratique de Thomas Sankara, d'arrêter le processus de restauration néocoloniale entrepris par ce traître à la Révolution d'août. Le Conseil national de la Révolution est dissous. Le gouvernement est dissous. L'organisation militaire révolutionnaire est dissoute. Le président du PASO, le secrétaire général national des comités de défense de la révolution et les commissaires politiques sont démis de leurs fonctions. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le Front populaire, le camarade capitaine.
Wesh, ainsi tout était prévu depuis le début. Pour la patrie, mais au finish c'est la mort qu'on nous a servi. En quête de routine, à qui profite le crime, à qui profite le temps. Va savoir, pas besoin de sortir de maths sup pour comprendre qu'on s'est fait avoir. On a préservé la paix sans la dignité. Rendez-nous la dignité et on vous foutra la paix.
À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime?
Chaque citoyen est responsable de ses actes et nos responsables ne font pas exception. Même pas ceux qui nous gouvernent, surtout pas ceux qui nous rabattent les oreilles avec des formules démocratiques tropicalisées, adaptées pour la diversion. L'histoire est celle que nous méritons, mais on doit la vérité aux enfants de la nation. Le progrès, c'est ce pour quoi on se bat, l'honneur, si ce n'est pour ce à quoi on croit. Ce qui fait de nous des êtres sensibles avec une larme qui tombe à chaque homicide. Ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Jette un œil à la ronde, une brochette de politiciens trapézistes qui rasent les murs et pourtant qui résistent.
À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Mais à qui profite le crime?
Voilà qu'on cherche des coupables qui n'existent plus. Ils sont intouchables, mais pas comme à Bombay. Eux peuvent bomber le torse et se payer une nouvelle virginité. Un casier blindé, pas comme le gilet que leurs victimes n'avaient pas porté. Un simulacre de procédure qui dure depuis mon adolescence fait grimper le prix de l'essence et danser le peuple. La panse vide, en fait, on n'en pense pas moins, c'est ça qui est con. Mais rien ne change par la pensée, rien n'a déjà plus de sens quand les responsables incriminés sont à leur tour encensés. Hélas, un passé ça laisse des traces, la patrie ou la mort, nous vaincrons.
À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime?
Paris France Afrique, l'émission de survie Île-de-France, tous les lundis 17h30-19h sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Donc Bruno, tu voulais nous parler de Smokey?
Alors juste une petite réaction sur ce que dit Sankara. Quand il dit qu'il ne s'est pas préparé, je pense qu'il fait preuve d'un peu trop de modestie. C'est quelqu'un qui, depuis Madagascar, a passé son temps à enrichir sa formation et à se cultiver politiquement. Il allait, il lisait plein de livres, il allait diriger avec les, il allait discuter, etc. Bon, je voulais juste dire deux mots sur Smokey, donc deuxième leader emblématique, oui, on peut dire, de la jeunesse. Lui, c'est du rap, donc il se trouve que Smokey et Sam Scalia sont devenus très amis. Donc Smokey aussi, lui, des problèmes. Il a un peu plus de moyens que Sam Scalia puisqu'il a son propre studio, ce qui lui donne beaucoup d'indépendance. C'est d'ailleurs dans ce studio qu'est parti Olivier Arruiz pour enregistrer un CD pour son frère. On n'aura pas le temps. Ce qui est important de dire, c'est que Smokey a subi aussi des pressions. Ce morceau était prévu de sortir avec un album. Il a pas du tout. Il y a eu des pressions énormes auprès de sa famille et ça, c'est difficile de résister. Donc, il n'a pas, évidemment, ce morceau n'est pas passé à la radio, mais il n'a pas pu le mettre à l'intérieur de son album. Maintenant, il est très content de dire que de toute façon, l'interdire, ça sert à rien. On peut écouter ses morceaux sur internet, etc.
Bon, on peut préciser aussi que pour cette émission, j'ai coupé le début où c'est Blaise Compaoré qui annonce la mort de Thomas Sankara. Et à la fin du morceau, c'est un discours de François Mitterrand qui dit que cet homme-là était quand même un peu gênant en parlant de Sankara. Donc, voilà.
Alors, juste dernière actualité de Smokey. Je pense que vous êtes au courant que Didier Awagi, un rappeur engagé sénégalais, vient de sortir un album qui s'appelle « Président d'Afrique », dans lequel il y a un morceau sur Sankara. Et c'est Smokey donc, qui joue dans ce morceau, voilà, qui est avec Didier Awadi sur ce morceau. Mm-hmm. Voilà.
Donc, dans la deuxième partie de cette émission, on va parler un peu de politique interne. Qu'est-ce que Sankara a essayé de mettre en place dans le pays ? On va l'écouter tout de suite, l'extrait de sa dernière interview sur la politique nationale qu'il a essayé de mettre.
Selon vous, quels étaient les changements les plus importants depuis l'avènement de la RDP ?
Bon. Je n'aime pas tellement cette question, parce que je suis moi-même acteur, je ne sais pas. On dit chez nous qu'un danseur ne peut pas savoir s'il danse bien. C'est les autres qui le regardent, qui peuvent dire, toi tu danses bien ou bien toi tu danses mal. Bien. Nous sommes là, nous sommes acteurs. Mais nous pensons, en toute modestie, que nous avons remporté des victoires, nous avons construit plus d'écoles qu'il y en avait avant. Nous avons multiplié le taux de scolarisation par deux. Nous sommes passés de à peu près 11-12% à plus de 23% maintenant. Et nous allons, cette année, passer certainement à 25%. Bon, nous avons construit un poste de santé primaire par village et nous sommes en train de créer la conscience pour que les gens entretiennent ces postes de santé. Et il y a eu un début, il y a eu un recul et maintenant les gens ont pris l'habitude, ils veulent les soins de santé et on peut repartir. Nous avons fait des barrages, plus de 226 barrages. Petite retenue d'eau, je veux dire. Nous avons fait des forages pour que les gens aient de l'eau potable. La femme chez nous faisait plus de 15 km pour avoir de l'eau, pas forcément potable, parfois c'était de l'eau verdâtre, saumâtre. Maintenant, à moins de 5 km, elle peut trouver de l'eau. Et nous pensons que nous allons réduire encore cette distance-là pour que ce soit 1 km et puis un jour que ce soit 10 cm, c'est-à-dire la distance jusqu'au robinet. Nous avons construit des routes, nous avons construit des logements en ville, en campagne. Nous avons, sur le plan économique, réalisé des performances. Vous savez qu'à la BCAO, nous sommes de tous les États là-bas le pays le plus stable sur le plan économique. Et cela sans aucun centime du FMI, sans les prêts des autres, nous sommes stables. Bon, tout ça, ce sont des victoires. Mais je crois que la plus grande des victoires, c'est la transformation des esprits. Le Burkinabé a confiance en lui-même maintenant. Et il sent qu'il peut transformer sa réalité, son milieu. Bien sûr, ce n'est pas automatique, mais c'est cela qui me paraît être le plus important. Tout le reste, vous pouvez oublier les écoles, les dispensaires, les barrages, les routes, les logements, tout ça, vous pouvez l'oublier. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Burkinabés ont pris conscience maintenant, ils ont confiance en eux-mêmes. C'est la première et la plus importante des victoires.
Est-ce que vous avez aussi connu des échecs et est-ce que vous avez commis des erreurs personnelles ?
Ah oui, nous avons commis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Beaucoup d'erreurs surtout. Ça, beaucoup, énormément. Chaque jour, nous commettons encore plus d'erreurs. Mais la différence, c'est qu'avant, nous commettions 100 erreurs et nous avions 0 victoire. Maintenant, nous commettons peut-être 10 000 erreurs, mais nous avons 2, 3, 4 petites victoires. Nous avançons. Mais retenez que cela me rend triste. Nous avons beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans l'appréciation de la situation, dans l'appréciation des hommes, dans notre... Nous-mêmes, on se décourage parfois, ou bien on est impatient, ou bien on est intolérant. Ou bien on est sectaire. Je prends tout cela à mon compte parce que c'est moi le président. Donc ça me rend triste très souvent. Peu importe qui commet ces erreurs, l'essentiel est que nous les acceptions comme nos erreurs à nous tous.
L'autosuffisance alimentaire est votre but primordial. Mais comment l'atteindre avec l'insuffisance des pluies ?
Par les barrages. Il faut beaucoup de barrages, beaucoup de retenue d'eau. Grand barrage, petit barrage, et c'est ce que nous faisons. Vous voyez, nous avons créé un ministère de l'eau, spécialement chargé de l'eau, rien que de cela. Et c'est pour l'autosuffisance alimentaire.
nous n'avons pas, nous ne pouvons pas nous en tenir uniquement aux pluies. Non. Mais même, bien sûr, dans le cadre des pluies, nous tentons les pluies provoquées. Alors, il faut beaucoup de barrages. Après, essayer de régénérer les sols. Régénérer les sols, c'est le reboisement. Ce que nous essayons de faire. Vous savez que nous allons lancer cette année une grande campagne, la ceinture verte, au nord du pays. Et que nous allons déplacer plusieurs milliers de personnes pour aller planter les arbres là-bas.
Planter, c'est encore relativement vite fait, mais comment protéger tous les arbres?
Nous sommes obligés de prendre des mesures contre les animaux, surtout la divagation des arbres, des animaux. Nous sommes obligés de prendre des mesures contre la coupe abusive du bois. C'est ça que nous appelons les trois luttes.
Mais je ne vois pas tellement des sanctions contre les gens qui ne respectent pas ça.
Oh, il y a beaucoup de sanctions qui sont prises. Et on nous a même critiqué, on a dit que nous étions très durs envers les gens. Mais maintenant, ils ont pris une certaine habitude.
Vous parlez aussi de beaucoup de la modernisation de l'agriculture. Mais est-ce que ça ne crée pas trop de dépendance, des importations encore des machines, des engrais, grains, etc.
Oui, c'est vrai ça. Mais nous luttons contre l'importation des engrais. Au contraire, les engrais chimiques, au contraire, nous développons des engrais organiques, hein, la fumure organique. C'est plus riche parce que les engrais chimiques appauvrissent le sol s'ils ne sont pas entretenus par... S'il n'y a pas une fumure organique, s'il n'y a pas un milieu organique pour que les éléments agissent, vous appauvrissez votre sol. Vous pouvez mettre un engrais sur du sable, il n'y a rien. S'il n'y a pas de matière organique. Vous pouvez mettre l'engrais sur un rocher, il n'y a rien s'il n'y a pas de matière organique. Et notre peuple, nos paysans sont en train d'apprendre la fumure organique. Bon, la modernisation, ce n'est pas forcément les tracteurs non plus, c'est aussi les charrues. Nous essayons de les fabriquer ici et nous cherchons des partenaires, d'ailleurs, pour reprendre les vieilles voitures qui sont accidentées, la tôle, pour fabriquer des charrues.
Vous faites beaucoup pour la promotion de la culture. Il est quand même surprenant de voir un festival de films dans un pays qui compte parmi les plus pauvres du monde.
La culture est, selon moi, la meilleure façon, la meilleure voie pour qu'un peuple s'engage, se détermine dans quelque combat que ce soit. Par la culture, on n'a pas besoin d'imposer. C'est par là que nous pouvons passer pour éduquer notre peuple, que ce soit du point de vue de l'hygiène, que ce soit pour l'alphabétisation, que ce soit pour organiser le travail, que ce soit pour donner le courage, l'art. C'est ce qu'il y a de plus fort. C'est pourquoi nous croyons à l'art, beaucoup.
Voilà, donc c'était Thomas Sankara, 11 jours avant sa mort, qui parlait un peu des politiques, des axes principaux qu'il a mis en place. On peut constater qu'il était relativement en avance, notamment sur certaines thématiques d'agriculture. Aujourd'hui, on voit que c'est vraiment ce qu'on tente de mettre en place avec les ONG et tout ça. On a pu entendre que la souveraineté alimentaire, l'accès aux biens publics de base, à savoir l'eau, la santé, l'éducation, c'était quelque chose de prioritaire chez lui, et la sensibilisation populaire aussi à travers la culture. Bruno Jaffray, qui est notre invité, est-ce que tu peux confirmer ça?
Bon, il parle du développement du FESPACO, donc c'est assez connu que ce FESPACO a évidemment été créé avant, mais il y a eu un grand bond en avant. Il y a des choses qui sont moins connues. C'est que moi, je me rappelle avoir circulé avec des bobines de cinéma dans des taxi-bus, parce que c'est la première fois que... c'est dans cette période, en tout cas, qu'on a essayé... D'abord, qu'il y a eu des constructions de cinéma populaire dans pas mal de villes. Mm-hmm. Et donc, il y avait la volonté de projeter des films du FESPACO dans les quartiers. Mais il y a une autre chose, ce qui est aussi connu, c'est la Semaine nationale de la culture, mmh. où là, il y avait une valeur, ça durait une semaine, les villes tournaient, il y avait une valorisation de tout ce qu'on peut connaître comme culture issue des différentes ethnies, d'une richesse 60 ethnies. Vous voyez, ça multiplie le nombre d'habitudes culturelles, de troupes folkloriques, etc. Donc il y a eu tout ça. Et il y a eu, dans la musique, lui-même était musicien. Mm-hmm. Donc il a contribué au développement des orchestres pour faire. Il faut dire aussi que le Burkina avait une école interafricaine de cinéma qui a contribué à former la génération d'aujourd'hui, qui a été supprimée, malheureusement, je crois, pendant la Révolution, simplement parce que. C'était une école interafricaine et que les autres pays ne finançaient pas cette école alors que c'était de leur
De leur ressort. Voilà, voilà, on verra ressort. Tout à l'heure les relations du Burkina avec les autres pays africains, en particulier dans la troisième partie de cette émission. Moi, j'aimerais te poser une question par rapport à la mise en place de ces politiques. Elles ont été relayées localement par les comités de la Révolution, les CDR. Ces CDR ont été décriés notamment à la fin de la Révolution pour différentes dérives. Pourtant, ils ont eu un rôle fondamental. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces CDR, leurs limites, ouais. Leur...
Je vais en parler en reprenant ce qu'il dit. C'est important de cerner ce que Thomas Sankara avait dans la tête, c'est-à-dire qu'il avait un programme qu'il a expliqué là, en deux mots. Hein. Mm-hmm. Augmenter la production, nourrir les gens, les soigner, leur donner l'éducation et des loisirs. Il y a même une phrase où il dit « Notre révolution, c'est ça ». Mais en même temps, il a derrière toute une formation politique et idéologique qui fait qu'il a une vision de ce qu'il faut faire pour arriver là. Mm-hmm. Et il a, en particulier, quand je dis qu'une vision, il a une culture marxiste, hein, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il a une vision des rapports de force en présence dans son pays. Donc, quand on fait une révolution, on a des ennemis, on a des gens qui vont bénéficier de la révolution, donc qui vont être des ennemis, mm-hmm. qu'il va falloir...
juguler.
Soit réprimé, soit en tout cas empêché de nuire. Et donc, il y a cette. Et au niveau international, évidemment, c'est très important, cette vision des rapports de force des clans.
On verra ça après.
D'accord.
Donc,
mais c'était, ce qui est important donc, dans son programme, il dit le plus important, c'est la confiance que j'ai donnée. Donc, ça, c'est fondamental. Et c'est probablement, outre toutes les réussites quantifiées, etc., c'est fondamental dans l'esprit des Burkinabés. Et. Dans ce que, il y en a qui ont souffert. Hein, donc, quand on voit dans la génération, il y a même des gens qui ont souffert à ce moment-là, qui aujourd'hui reviennent un petit peu sur leur opinion qu'il y avait à ce moment-là. Mais c'est ce que retiennent les gens, c'est-à-dire que quand il dit qu'on a confiance, que les gens ont confiance en eux, et il dit qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, mm-hmm. c'est qu'il a montré en les mobilisant. C'est-à-dire que dans cette situation compliqué où on a beaucoup d'ennemis à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, et un des premiers objectifs, c'est d'arriver à tirer le maximum de ce qu'on peut tirer de la richesse de son pays avant de demander de l'aide. Mmh. Donc, cette question de confiance est très importante. Et donc, cette confiance, elle a été créée donc par l'encadrement de la population, encadrement dont le seul bras, enfin je ne sais pas si on peut parler de bras ou de moyens, c'était justement ces comités de défense de la Révolution. En gros, toute la population était structurée soit dans les entreprises, soit dans les villages, soit dans les quartiers, dans les comités de défense de la Révolution, qui avaient en gros pris le rôle de la mairie, qui avait même des rôles de justice, etc. Donc mm-hmm. ça fait et beaucoup de questions économiques. Donc on connaît les CDR sur leurs dérives répressives, ce qui a existé, mm-hmm. y compris parce que c'était comme c'était le seul instrument autorisé qui avait pignon sur rue, le seul instrument politique. Et donc on passait par les CDR pour
ouais.
voilà, c'est-à-dire que les partis politiques qui existaient. Clandestine, enfin qui existait et qui se battait pour être les préférés de Sankara, en tout cas pour avoir la place la plus importante, mm-hmm. passait par les CDR pour essayer
pour
de les contrôler,
mousser.
Pour se faire mousser et pour arrêter les ennemis, enfin ceux contre qui ils se battaient. Mm-hmm. Donc c'était très important. Mais par exemple, ils avaient, moi je me rappelle, donc j'ai vécu 5 mois entre juillet 87, j'avais fait quelques séjours, mais entre juillet 87 et novembre 87. Et donc j'ai bien vu que c'était dans les CDR qu'on apprenait aux femmes à économiser le bois, par exemple. Mm-hmm. C'était dans les CDR par lesquels il fallait passer, par exemple, pour avoir des formations pour conserver la tomate. Hein, la tomate produit très périssable, on en produit beaucoup. Si on ne l'utilise pas dans les 2 jours, surtout dans un pays chaud comme ça, il n'y a pas de frigidaire. Mmh. Et donc, il y avait des formations de toutes sortes qui passaient dans les CDR. Donc, et ça, c'était cet instrument de... Et dans les villages, c'est eux, avec un certain nombre d'infrastructures, probablement l'armée et tous les moyens de l'État, mais c'était ces structures fondamentalement qui mobilisaient. Dans un pays, on faisait une révolution sans parti politique... qui pouvaient enrôler la population. Mmh. Et donc, c'était les CDR qui ont joué ce rôle. Et donc, bon, maintenant, sur les... J'ai pas, bon, la question portait sur les dérives. Donc, évidemment...
Oui, en partie, mais c'est... Enfin, ouais, vas-y, dis-nous.
C'est effectivement... Bon, non, précise ta question, parce que je pense que j'ai répondu, y compris
oui,
sur les dérives.
Je pense que tu as répondu. Je pense que tu as
répondu. Y compris sur les dérives. Il y avait... Et puis, bon... Il faut comprendre, on n'a pas fait l'historique des problèmes politiques, je ne sais pas si c'est là ou si tu as une autre question. Vas-y. Là-dessus, mais c'est clair que tout au long d'une révolution, comme dans n'importe quelle révolution, on affronte des problèmes politiques, mm-hmm. on affronte des tendances, et donc il y a eu des conflits d'organisation politique, mm-hmm. et ils n'ont, contrairement à ce que pensent les gens, pour la plupart, ils n'ont pas commencé... durant l'année 87, ils ont commencé dès le début.
Bien sûr.
Il y a eu des conflits avec le PAI, qui était le parti plus important. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, il y avait quand même du côté des militaires ou des partis politiques qui s'opposaient au PAI, l'idée que le PAI voulait la réalité du pouvoir à lui tout seul. Et du côté du PAI, il y avait la critique selon laquelle, quand il y avait les réunions du Conseil national de la Révolution, il y avait... 5, 6, 7, 8 civils, je crois que c'était 3 par tendance, et ils se retrouvaient aux trouves de 30 militaires et ils disaient qu'on ne peut pas travailler comme ça. Souvent d'ailleurs parce que, alors pour des raisons sur lesquelles je ne peux faire que des hypothèses, c'était probablement l'idée pour Thomas, l'idée un peu populiste, hein, qu'un adjudant, il n'est peut-être pas un adjudant, donc il y avait des sous-officiers. Hein. Mm-hmm. L'adjudant n'était peut-être pas quelqu'un très érudit politiquement, mais il a un sens pratique, etc. Soit des idées comme ça, soit des idées sur le fait qu'il pensait qu'il fallait former les militaires. Moi, je sais très bien, pour en avoir rencontré un certain nombre, que tous les gens qui suivaient Sankara, il y en avait quelques-uns qui étaient formés politiquement, mais ils le suivaient par son charisme et par son côté humain dont on n'a pas parlé. Il est aussi très populaire parce que c'est quelqu'un qui est profondément humain et humaniste. Et quand on le croise, enfin, les gens qui l'ont croisé un moment s'en sont rendus compte. Donc voilà un peu. Et donc il y a eu des conflits politiques. Le PAI, malheureusement, et ça c'était une perte, a été écarté. Enfin, il est parti, ils ne sont pas d'accord. En tout cas, au bout d'un an de pouvoir, ils n'étaient plus là. Alors que c'est eux qui avaient probablement été à l'initiative des premiers CDR, etc., dans les villes. Et donc ça a créé un vide politique. Mm-hmm. Et tout de suite, évidemment, sont arrivés plein de gens, ce qu'on appelle des arrivistes, qui n'avaient pas participé. Il y en a qui avaient participé, d'autres qui n'avaient pas, qui prenaient les places. Et donc on a créé d'autres organisations politiques, etc., qui de nouveau ont voulu la réalité du pouvoir. Et l'autre difficulté qu'il y a eu, c'est la gestion des syndicats, qui est liée à ces questions politiques, puisque les partis clandestins avaient l'habitude de faire de la politique à travers les syndicats. Et donc il y a eu cette question des syndicats qui a peut-être été primale, dans la mesure où on a créé des CDR dans les entreprises et on les a maladroitement opposés aux syndicats sans essayer de clarifier la position qu'avaient les uns et les autres. Et donc, ça a créé ces conflits avec les syndicats qui ont perduré pendant tout. Bon, des leaders syndicaux ont été emprisonnés et tout le long de la Révolution. Et on a tenté de prendre... Les CDR ont tenté de prendre la direction des syndicats. Donc, voilà quelques problèmes qui sont inhérents à une révolution, en fait.
D'accord. On a aussi pu entendre que Sankara était assez centralisateur dans la gestion des choix politiques. Est-ce que c'est ça qui a créé des dissensions, ou est-ce que c'est les dissensions qui l'ont poussé, lui, à être centralisateur dans l'impulsion des axes politiques ?
Non, je pense que ça va de pair. Le fait de la centralisation, c'est que Sankara est un personnage extrêmement créatif qui a une idée par jour, on va dire. Enfin, je ne sais pas s'il avait une idée par jour, mais en tout cas, c'était son dynamisme. Sankara était comme ça. Ce qui l'animait, c'était vraiment l'avenir de son pays et le bien-être de sa population. Effectivement, il avait des idées. Vous voyez, là, à la fin, cette idée de ceinture verte que j'ai appris assez tardivement, c'est quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Certains diraient ça nous fait penser à la Corée du Nord, etc., ou au Cambodge, on va mobiliser. Et d'autres diraient, on est dans un pays pauvre, il faut bien qu'on y arrive.
ONG qui sont sur place, elles rêveraient qu'il y ait encore ce genre de mobilisation, que ce soit au Burkina ou dans tous les pays qui sont au Sahel. Elles rêveraient qu'autour d'elles puissent se faire des mobilisations de ce genre quand elles travaillent sur la désertification.
Absolument, mais il faut comprendre, c'est pas des choses simples. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que... la révolution, c'est pas une partie de plaisir. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans un pays pauvre, on fait des choix politiques d'indépendance. Ça veut dire que dans un pays très pauvre, ça veut dire qu'on prend dans ceux qui n'ont pas beaucoup. Et donc, dans la même interview, dans cette interview où il dit que Enfin, j'ai plus ces phrases. En tout cas, dans cette même interview, il dit les fonctionnaires, je les comprends, etc. Ça a été en permanence un problème. Mm-mm. Les fonctionnaires, c'est les salariés, c'est eux qui animaient les CDR, c'était les révolutionnaires.
La réduction des salaires.
Voilà, on leur réduisait leurs salaires, etc. Donc il y a eu. Et ça, c'est une contradiction insurmontable. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Fondamentalement, on n'a pas le choix. Mm. Soit on demande de l'aide extérieure. Mm-hmm. Et le Burkina a négocié avec le FMI. Hein. Mm-hmm. La bataille du rail, c'est le résultat de l'échec des négociations avec le FMI. En gros, il fallait construire un train. Le FMI ne voulait pas qu'on construise de rail là-bas. Et donc, on a décidé de le faire. Et on envoie les gens, tous les jours, des gens qui font. Ils voulaient faire pareil pour
la ceinture verte.
Voilà, pour la ceinture verte, qui est un projet dantesque, mm-hmm. Un peu utopiste même, mais bon.
D'accord. On va faire, pour boucler un peu cette partie, j'aimerais que tu nous parles des tensions qui pouvaient exister au plus haut niveau de l'État, quels en étaient les acteurs et les racines. Parce que il n'est pas arrivé...
J'en ai parlé, ça. C'est-à-dire, fondamentalement, il y a la rivalité d'organisations politiques, de mm-hmm. gens qui sont arrivistes, d'autres qui sont sincères. Mm-hmm. Aujourd'hui, une très grosse partie des gens qui se sont opposés à Sankara sont au pouvoir. Avec Blaise Compaoré, soit dans les partis, ils occupent des postes, etc. Donc ils étaient. Et donc on voit bien que la sincérité de ceux qui animaient l'opposition à Sankara, on voit bien ce qu'elle est, c'est-à-dire que fondamentalement, et lui le savait, que les gens, que comme il était un peu partout, qui surveillait tout, etc., qui faisait des réflexions directement à une personne dont il avait entendu dire qu'il avait fait telle ou telle chose, mm-hmm. et donc il avait des ennemis personnels un peu partout, parce qu'il avait cette rigueur, cet exemple qui faisait que lui-même, cet exemple faisait qu'il était gênant, parce que c'était son exemple même qui empêchait les gens de pouvoir, ce qu'on appelle vulgairement là-bas, aller bouffer, enfin même pas vulgairement, on appelle langage courant, allez bouffer.
Ok, bon, on va écouter Paco Conné avec la chanson Côté C. On remercie Daniel d'avoir téléphoné. Très vite.
Après
fait. Ouais, après. Allez, on écoute Paco Conné.
Sankara. never known a foe, never known a foe, never known a foe, Sankara. Hey, I love what you are.
Paris France Afrique, l'émission de survie Île-de-France, tous les lundis 17h30-19h sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Voilà, vous êtes toujours sur Paris France Afrique, l'émission de l'association survie tous les lundis de 17h30 à 19h. Aujourd'hui, on parle de Thomas Sankara avec Thomas Sankara en invité posthume sur une interview inédite et avec Bruno Jaffré qui est un militant de survie et qui est le biographe de Thomas Sankara, qui a notamment écrit Biographie de Thomas Sankara, La patrie ou la mort, trois petits points, et Burkina Faso, les années Sankara, de la révolution à la rectification. Alors Bruno, tu voulais faire un petit commentaire sur l'artiste qu'on vient d'écouter, Paco Conné.
Alors oui, Paco Conné, lui, il est en France, donc c'est un musicien, il est intéressant. Alors sa chanson qu'on vient d'écouter, elle dit... ils ont dit qu'on n'était pas capable. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, ce que disait Sankara sur le fait qu'on a donné confiance. Mm-hmm. Et donc, c'est le sens de sa chanson. Il est intéressant parce que c'est un ancien petit chanteur au point levé. Mm-hmm. Et donc,
il faisait partie des troupes sous la Révolution.
Des troupes. C'est un espèce d'ambassadeur culturel. D'accord. Il avait créé un groupe de femmes et un groupe d'enfants. Et lui était dedans parce que c'est quelqu'un qui est né dans la musique, puisqu'il est griot, donc ça veut dire famille de musiciens. Il se trouve que son père était un ami à Sankara. Et quand Sankara voulait créer ce groupe, il a fait appel à lui. Et donc, Paco Conné est en France et il essaye... Donc ça, c'est une maquette. Mm-hmm. Il essaye, porté par une... manager très dynamique, il essaye de sortir un disque et ça a été reporté pour des manques de moyens, mais bon, on espère, parce qu'en fait, c'est difficile de s'en rendre compte, mais il a une musique en fait extrêmement, extrêmement riche, puisqu'elle est très dense. Elle est très dense.
D'accord, voilà. On peut retrouver des articles sur lui sur le site thomasankara.net. Alors, on va écouter tout de suite, on va faire cette partie, troisième partie d'émission sur la politique étrangère de Thomas Sankara, une politique qui est très importante, puisque avec un leader aussi charismatique, on a le Burkina Faso qui explose en fait sur la scène africaine et sur la scène internationale. On va donc retrouver un extrait de l'interview de Inga Nagel du 4 octobre 1987, Thomas Sankara. Tout de suite.
Quel pays est-ce que vous considérez comme pays ami ?
Où nous avons beaucoup de pays amis, en Afrique, hors d'Afrique. Autant nous avons des ennemis, parce que la révolution lutte contre les intérêts établis des capitalistes, des bourgeois, des réactionnaires, autant nous avons beaucoup d'amis. Mais en Allemagne, par exemple, nous avons beaucoup d'amis. Je reçois des lettres d'Allemands qui m'écrivent, qui me demandent des nouvelles de notre pays. Voilà, nous les considérons comme des amis, ceux-là. La misère du peuple du Burkina Faso est une misère qui procède des mêmes causes que la même misère ou les mêmes souffrances que les autres peuples peuvent connaître. Bien sûr, les souffrances ne sont pas de même nature. Dans votre pays, en Allemagne, les soucis de votre peuple ne sont pas exactement les mêmes soucis que chez nous. Mais la domination qu'il y a sur votre peuple est la même domination qu'il y a chez nous. En tout cas, elle procède de la même force. Et c'est là qu'il faut que nous arrivions à établir le lien, l'unité de pensée et d'action ensemble. Les Allemands ne sont pas les ennemis des Burkinabés et les Burkinabés ne sont pas les ennemis des Allemands. Nous constatons que le débat au niveau des gouvernants ne suffit pas, parce que se mêlent dans ce débat ce que l'on appelle les intérêts d'État. Lesquels intérêts d'État, ma foi, évoluent au gré des compromis et même des compromissions. Mais le forum est avant tout l'affaire des peuples et non l'affaire des gouvernements.
Qu'est-ce que vous pensez de l'armement, même atomique, des pays du tiers-monde ?
Je ne veux pas que nous parlions de l'armement comme s'il y avait un armement tolérable, acceptable, et puis un armement non acceptable. Même un gourdin, même un petit couteau, est aussi dangereux et aussi condamnable que la bombe atomique. Si vous pouvez condamner la bombe atomique, vous pouvez condamner le petit pistolet, le petit fusil, la petite grenade. Pour moi, c'est pareil. Ce qui est important... c'est savoir qu'est-ce que l'on veut obtenir comme résultat avec les armes. C'est imposer une certaine loi au peuple. Est-ce que la meilleure loi de vie des sociétés, des peuples, ce n'est pas
cette loi que le peuple lui-même choisit. Alors si on laisse la liberté s'exprimer, si on laisse la démocratie s'exprimer, c'est plus fort que la bombe atomique, c'est plus fort que toutes les prisons, c'est plus fort que toutes les polices du monde. Et si on laisse les peuples communiquer entre eux, on n'a pas besoin des chars, des avions de chasse pour imposer une politique. Plus on a perdu la voix du peuple, le droit du peuple à s'exprimer, plus on est obligé d'employer la force.
Comment est-ce que vous jugez les négociations sur le désarmement entre les superpuissances?
Oui, je pense que ça devrait être des négociations au niveau de tout le monde, parce que ça ne concerne pas seulement les superpuissances. Comment les superpuissances peuvent s'entendre si nous ne sommes pas associés? D'ailleurs, les guerres, où est-ce que ça se déroule? Ça ne se déroule jamais chez les superpuissances, ça se déroule chez les autres. Toutes les guerres du monde actuellement, c'est toujours chez les autres. Donc c'est d'abord nous qui sommes concernés. La bombe atomique, elle ne concerne pas les superpuissances seulement. Parce que si la bombe explose, c'est nous qui allons subir les effets négatifs.
Des 50 chefs d'État africains, presque la moitié sont des militaires. La plupart d'entre eux sont venus au pouvoir par coup d'État. Pourquoi est-ce que c'est comme ça?
Le pouvoir a été concentré et représenté essentiellement par les armées dans nos pays. Ce qui fait que, en cas de crise, c'est l'armée qui est perçue comme le pouvoir pouvant créer une stabilité, une certaine sauvegarder, une certaine rigueur. Mais en même temps, il ne faut pas se le cacher, les armées ont généralement servi les pouvoirs réactionnaires. Ça a été un remplacement des hommes, mais pour servir la réaction. Par contre, nous estimons que de plus en plus, en faisant participer le peuple et en faisant en sorte que ce soit le peuple lui-même qui assure sa défense, il peut y avoir des changements de régime, mais ce seront toujours les éléments du peuple, ce sera toujours le peuple lui-même. Et c'est ce que nous voulons faire.
Voilà, vous êtes sur 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel. On vient d'entendre Thomas Sankara, son point de vue sur le rapprochement des peuples et l'armement des superpuissances. Il est certain que cette position diplomatique devait être difficile à accepter en Occident, mais aussi en Afrique, puisque nous le voyons souvent dans cette émission, beaucoup de gouvernements sont liés aux puissances occidentales. Alors Bruno, ma première question de politique étrangère, c'est quel rapport avec les pays africains sous Sankara?
Alors Sankara... Le Burkina Faso est un pays enclavé qui se trouve en Afrique de l'Ouest, où en tout, au milieu en fait, d'anciennes colonies françaises, y compris Niger, mais même si on monte, il y avait l'Algérie. Et donc, bon, je pense qu'à survie, on le sait, en tout cas, et probablement les éditeurs le savent aussi, la France veille comme la prunelle de les yeux sur ses colonies pour en garder le contrôle. Et donc, évidemment, si la Haute-Volta ne comptait pas beaucoup, puisque ce n'était pas un pays riche avant la prise de pouvoir de Thomas Sankara, puisque l'essentiel, c'était la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça. Et donc, le pays servait de main-d'œuvre aux plantations de Côte d'Ivoire. À partir du moment où il est devenu un symbole dans la région, et ça s'est fait assez rapidement, parce que... Ça s'est fait assez rapidement parce que, bon, les gens, s'ils n'avaient pas la télé, ils avaient la radio et on entendait quand même parler de Sankara. Je pense qu'il devait fasciner largement hors de son milieu politique naturel. Mmh. Il fascinait tous les journalistes, il les mettait plus ou moins dans sa poche de par son charisme, même si quelques-uns ont écrit des articles très incendiaires contre lui. Et donc voilà, donc c'était quelqu'un qui était très connu, il était connu, y compris dans les pays voisins. Et donc voilà, le tableau, c'était celui-là. Donc la plupart des pays de la région contrôlés, en tout cas les francophones, étaient contrôlés par la France, avec l'exception du Ghana. Il y avait aussi le Congo, Brazzaville. Bon, alors c'était pas aujourd'hui... Sassou Nguesso, c'est un des piliers de la France-Afrique de par son pétrole. Mais à ce moment-là, il se disait révolutionnaire. Mmh. Et donc, il y avait ça, plus le Bénin, c'était qui étaient des pays qui se disaient révolutionnaires et qui étaient soutenus par l'Union soviétique. Et donc, tous les autres étaient des pays de la France-Afrique, on va dire. Et l'essentiel du soutien, c'était la Côte d'Ivoire. Hein. La Côte d'Ivoire, de par sa puissance économique, parce que c'était aussi ce qu'on appelle en économie un pays relais, c'est-à-dire c'était un pays qui avait une certaine transformation que n'avaient pas les autres et elle déversait sa production dans les pays voisins en même temps, c'était un pays qui importait énormément à la France, qui avait un niveau de vie supérieur, donc il y avait de l'argent disponible pour consommer des biens qui venaient de France. Et politiquement, Houphouët de Boigny était le sage de la, considéré comme le sage de la région. Mmh. C'est lui qui créait les problèmes et les qui résolvait les problèmes comme le fait aujourd'hui Compaoré dans la même région. Compaoré a pris la place d'Houphouët de Boigny. Donc, à partir de... Alors, il y a eu une opposition assez rapide avec Houphouët de Boigny. Au moment où la Haute-Volta devait devenir, je crois, secrétaire de la CEAO, puisque c'était des pays tournants, et Houphouët de Boigny s'y est opposé. Donc, il y a eu des conflits assez rapidement. Il y a eu des conflits avec le Mali, une guerre plus ou moins qui pose question, pourquoi une guerre, etc. Donc, avec en plus des livraisons d'armes importantes au Mali, par la France d'ailleurs, avant, alors que le Burkina, tout le monde savait que c'était un pays qui avait pas beaucoup d'armes. Hein. Voilà, donc il y a eu des conflits assez rapidement, l'essentiel venant. Et alors, ce qui est important de souligner, c'est que Sankara, qui avait une formation politique marxiste classique, a sans doute eu quelques illusions sur l'Union soviétique pendant un moment, ou même par la Libye, hein, on n'en a pas parlé, parce qu'il a cru que ces pays allaient l'aider beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait. Et donc, et ça n'a pas été le cas pour parce que Sankara est et tient à sa libre parole.
Il était trop indépendant pour...
Son indépendance, il a assez rapidement critiqué, il ne le faisait pas publiquement, mais il a assez rapidement critiqué Kadhafi sur sa politique au Tchad, on était dans une période de conflit, et il a critiqué l'Union soviétique en disant qu'un pays comme ça devait aider une révolution, etc. Donc il s'est trouvé finalement assez isolé. L'aide, elle venait de la Corée du Nord, qui n'est pas un pays très riche, un peu de la Chine, mais elle n'a jamais... Et ce sont des pays de cultures différentes, assez loin, etc. Et donc, voilà un peu le tableau politique de la région. Donc, à partir de... Et donc, très rapidement, on a commencé à bon, il y a eu plusieurs conflits. Et c'est vrai que les dirigeants burkinabés, Sankara lui-même, ont parfois eu des déclarations un peu provocatrices en disant que, en parlant de révolution dans les autres pays, ou par exemple, quand il est revenu de la CEAO, il y a eu Pierre Ouédraogo qui a fait un discours incendiaire, ce qui n'ont pas arrangé les choses. Mais bon, on était dans cette période un peu difficile.
Bah même quand on écoute la totalité du fameux discours de Thomas Sankara à Addis Abeba, à l'OUA, qu'il a fait en 87, l'extrait le plus connu, c'est quand il propose aux pays africains de refuser tous ensemble la dette. Donc on entend bien que là, toute la salle applaudit et est assez enthousiaste. Mais quand on écoute vraiment la totalité du discours où il incite les pays africains à refuser l'impérialisme, on sent que la salle, elle est quand même assez tendue. Et que, s'il y a ce passage-là sur la dette où tout le monde applaudit, tout le monde rit, tout le monde ne rit pas forcément au discours de Thomas Sankara, en fait.
Il rit jaune.
Ouais, ils sont assez gênés.
D'ailleurs, il dit dans ce discours, il critique les pays qui ne payent pas leurs cotisations. Il dit, il les critique de ne pas payer leurs cotisations, ce qui empêche justement l'Organisation de l'Unité africaine d'avoir les moyens d'une politique panafricaine.
Oui, on sait aussi qu'il était allé au premier sommet France-Afrique de sa présidence en 83 à Vittel, et qu'il avait fait une remarque au président africain en disant qu'ils étaient plus présents au sommet France-Afrique qu'au sommet de l'OUA, donc il les avait assez critiqués.
Et donc il est de ceux qui, a boycotté tous les sommets France-Africains, c'est-à-dire qu'il n'y a plus été. Il a fait un petit scandale là-bas parce qu'il a été accueilli par Guy Penn, qui était justement celui dont il soupçonnait d'avoir été à l'origine de son arrestation. Et donc il a créé un esclandre. Il y a eu pas mal de...
Donc on sait aussi que, comme tu disais, il avait une formation assez marxiste et qu'il s'était rapproché de certains pays comme Cuba, ou qu'il était aussi allé dans certaines républiques soviétiques de l'Europe de l'Est, ou en Chine ou en Russie. Quels étaient les pays qui ont marqué le plus de réticences politiques sur le plan international, les pays occidentaux en particulier ?
À Sankara, c'est-à-dire que pour les pays occidentaux, c'est la zone France, donc c'est aux Français de s'en occuper. En gros, ça marche comme ça.
Les Américains sont pas beaucoup.
Les Américains, alors il y a maintenant des témoignages qui disent que la CIA a participé à son assassinat. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que Sankara a été à Cuba assez tôt, que avant son discours le plus connu, celui des Nations Unies, il a séjourné à Cuba. Et là, probablement, c'est le genre de symbole qui ne plaît pas aux États-Unis.
Aux Américains, oui.
Pour les Français, un symbole qui a sans doute été à l'origine de l'accroissement des problèmes, c'est d'avoir fait campagne, puisque selon les règles de l'ONU, le Burkina Faso a fait 2 ans au Conseil de sécurité de l'ONU,
oui.
Parce que c'est les pays qui tournent.
Tout à fait.
Il a fait campagne de cette position-là pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ce qui était aussi inacceptable pour la France.
D'accord. Ben justement, on va écouter un extrait de Thomas Sankara d'une toute petite minute sur les pressions qu'il a subies quand il avait ce poste à l'ONU. Et puis, on va finir sur les tensions et son assassinat.
Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous recevons aujourd'hui des pressions multiples, multiformes, pour orienter nos votes, pour orienter nos prises de position aux Nations Unies. Pouvons-nous nous taire lorsque l'on agresse un pays parce qu'il est petit? Pouvons-nous nous taire lorsque l'on envahit un autre pays? Nous estimons que si nous sommes aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, et si nous ne sommes pas simplement pour compléter les effectifs et pour la foire, nous devons avoir le courage de dire au nom des peuples qui nous ont fait confiance, car il s'agit de vote, et la Haute-Volta a eu plus de 104 pays qui l'ont élu, nous devons représenter leurs intérêts. Et en particulier, ces pays non alignés qui ont massivement voté pour la Haute-Volta, nous devons quotidiennement, constamment, courageusement défendre les intérêts des non alignés d'une manière particulière, mais d'une manière générale, de tous les peuples qui s'indignent. Si nous ne voulons pas que le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies en général deviennent une caisse de résonance manipulée par quelques tambourinaires puissants, il nous faut, nous, membres, y exercer tout notre droit, même s'il est limité du fait que quelques-uns ont un veto qui est omniprésent. Nous avons donc des pressions.
Voilà, donc on vient d'entendre Thomas Sankara sur sa position volontariste à l'ONU. On sait, on rappelle souvent ici à Paris France Afrique que beaucoup des pays du précaré français servaient justement à la France de soutien de vote à l'ONU pour ses positions diplomatiques internationales, pour ses positions militaires, etc. Et que ça continue aujourd'hui. Donc on imagine bien qu'avec la France, ça ne devait pas être très intime comme rapport. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu aujourd'hui l'actualité de ce qu'on sait sur son assassinat? Donc, on sait qu'il a été assassiné le 15 octobre 1987 par des Burkinabés. Qui était derrière? Où est-ce qu'on en est?
Alors, juste un petit complément sur la Palestine quand même, qui est quand même un des conflits majeurs de notre époque, pour dire que sur cette question-là aussi, Sankara était probablement le plus avancé à l'ONU et il n'y avait pas une déclaration. Bon, l'Afrique du Sud, le problème est, en tout cas de l'apartheid, il n'y avait pas une déclaration de Sankara sur les questions internationales.
On ne l'a pas dit, mais Sankara avait une position de
soutien à l'OLP et de dénonciation de la connivence entre Israël et les États-Unis. Donc, Sankara devient donc la cible de l'impérialisme, on va employer son mot. Le mot impérialisme signifiant, en gros, pour simplifier, ceux qui s'enrichissent sur le dos des peuples et qui ont une espèce de connivence internationale. Aujourd'hui, c'est ceux qui jouent en bourse, c'est ceux qui envoient, qui soutiennent des mercenaires pour
exploiter
fomenter
les zones
minières, pour fomenter des guerres dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et Blaise Compaoré a joué ce rôle-là, puisqu'il a lui-même participé à la guerre horrible du Libéria. Au passage, il a pu se sucrer et se faire une fortune ce moment-là,
et en
trafiquant le diamant avec Jonas Savimbi, qui était un des soutiens de l'apartheid.
Oui, il est soupçonné d'ailleurs d'avoir envoyé des armes au Libéria pendant cette guerre.
Il a même envoyé des soldats.
D'accord.
Donc, alors l'assassinat, ce qu'on sait, c'est que ce qui est étonnant, c'est une histoire, un rebondissement. C'est-à-dire que on a eu assez rapidement. Ce qu'il faut dire, on a eu assez rapidement, par un journaliste d'investigation, les noms des membres du commando qui ont tué Sankara, donc qui étaient des Burkinabés. Et puis il semble en fait que on n'est pas entièrement toute la vérité sur cet assassinat, en tout cas sur les gens qui étaient là et ce qui s'est réellement passé. Donc il convient de poursuivre l'investigation. Ce qui est intéressant d'abord, c'est que les Libériens ont parlé, donc très vite, Charles Taylor est venu au Burkina. Il dit qu'il a été libéré après l'assassinat de Sankara, mais en fait, il a été libéré avant. Mm-hmm. Et on essaye d'obtenir la preuve. J'espère qu'on l'aura rapidement. En tout cas, je le sais de source assez sûre par l'ancien ministre de l'Intérieur de Sankara qu'il a été libéré avant et que tout le monde le connaissait sous un nom que je n'ai plus en tête et on savait dans quelle maison il habitait. Et donc les Libériens sont venus et ils ont commencé à demander de l'aide à Sankara qui a finalement refusé. Enfin, les témoignages sont un peu contradictoires, mais surtout ils ont été interceptés par Compaoré qui leur a dit qu'il allait les aider. Il faut comprendre que Compaoré avait la mission des relations à l'extérieur, y mm-hmm. compris des relations avec Oufouette Boigny et de la Libye. Mm-hmm. Et donc, il les a interceptés en disant « Si vous m'aidez à tuer Sankara, je vous mets en contact avec la Libye. » Et donc, c'est des témoignages qui datent de pas plus de 2 ans. Et il y en a eu un comme ça déjà au moment d'un procès à la CPI. Mais là, un film italien est sorti où il y a 3-4 témoignages de Libériens qui parlent de ça et qui parlent aussi de l'implication de la CIA et des services secrets dans cet assassinat.
Des services secrets français.
Voilà, des services secrets français. Ce qu'il faut comprendre quand même, ce n'est pas anecdotique, c'est que Blaise Compaoré s'est marié en 85 avec une femme de l'entourage d'Afouette Boigny. Et on peut imaginer, certains disaient qu'ils voulaient prendre le pouvoir, on peut imaginer en tout cas que ça a servi, que Afouette Boigny a pu faire pression ou en tout cas a pu enrôler Blaise Compaoré dans cette opération qui consistait à supprimer Thomas Sankara du paysage politique et même de l'Afrique et en même temps supprimer l'espoir qu'il y avait à ce moment.
Voilà un peu où on en est. Il a sûrement eu, ne serait-ce que par des mots cachés, des messages de la part de la Côte d'Ivoire, de la France via la Côte d'Ivoire, par exemple, qui lui disaient...
Bon, je pense que ça se fait assez finement. Ouais, c'est-à-dire voilà. Que, bon, Blaise Compaoré était influencé, influençable pour un certain nombre de raisons qu'on ne va pas étendre ici. Mm-hmm. Mais il y avait y compris dans son pays des gens qui lui disaient qu'il n'était pas question. Il y a des problèmes ethniques qui sont secondaires, qui ont existé. En tout cas, il se trouve qu'il voyait très souvent du coup Afouette Boigny, mm-hmm. qu'Afouette Boigny a commencé à déverser de l'argent à cette famille et que Madame Compaoré, la femme actuelle qui était issue de la bourgeoisie ivoirienne, ne pouvait pas vivre dans l'austérité qu'on imposait au Burkina. Il a dû transformer parce que, en fait, Blaise Compaoré et Sankara avaient la même austérité, sauf que Blaise Compaoré avait déjà une réputation d'être un peu plus coureur que Sankara. Mm-hmm. Mais bon, voilà. Et donc, il y a eu une influence de différents ordres jusqu'à une approche beaucoup plus concrète sur ces questions-là.
D'accord. Donc, tu parles de l'implication de Blaise Compaoré. Est-ce que ça, c'est certifié aujourd'hui?
C'est certifié.
Disons que les témoignages concordent.
Ah bah oui, ça, tous les témoignages concordent. Les hommes qui ont tué sur Sankara sont des hommes qui sont issus
de sa troupe
qui contrôlait. Ça, c'est sûr.
D'accord.
Ça, c'est sûr. Il y avait, l'ancienne de camp Sankara m'a raconté des histoires sur les bérets et qui se reconnaissaient, etc. Alors, avant de terminer l'émission, quand même, il faut dire donc que cette histoire d'assassinat est en fait d'actualité. Puisque la famille demande justice et en tout cas que la vérité soit dite jusqu'au bout.
Bien sûr.
Cette vérité, elle est partiellement dite puisqu'on sait, et il y a de doute pour personne, que Blaise Compaoré est impliqué dans cet assassinat. Mm-hmm. Mais il reste à savoir le rôle exact qu'a joué la France. Il y a quelques témoignages et peut-être éventuellement les États-Unis. Mm-hmm. C'est pour ça que dans ce cinquantenaire des indépendances, il y a une pétition qui vient d'atteindre les 2000 signatures et dont un certain nombre de personnalités d'ailleurs viennent de signer, qui demande en gros 3 choses. Qu'il y ait une enquête internationale qui affirme un certain nombre de choses, le rôle important de Sankara et pour l'Afrique, l'importance pour l'Afrique de connaître son histoire, y compris celle-là,
puisqu'on
a tué un des dirigeants les plus prometteurs. Donc qu'il y ait une enquête internationale, qu'il y ait justice et qu'on ouvre, en tout cas très précisément, qu'on ouvre les archives ouvre les archives pour qu'on connaisse la vérité, puisque c'est effectivement, pour l'instant, on a des témoignages et il existe probablement des documents
qui sont aujourd'hui classés secret défense.
Voilà les choses qu'a dit Foucault, on sait pertinemment qu'il n'en a pas dit l'essentiel, etc. Mmh. Donc voilà une campagne qui commence et qu'on espère amener à
D'accord.
Jusqu'au bout.
Donc on peut retrouver cette pétition en ligne sur le site thomasankara.net. Donc pour tous ceux qui veulent mieux connaître Sankara ou sa politique, on a été pas exhaustif aujourd'hui, on a essayé de brosser un panel. Donc je rappelle que Bruno Jaffray a écrit plusieurs livres, un sur la Révolution et un autre une biographie de Sankara. On aura l'occasion avant novembre 2010 pour les élections au Burkina Faso, de faire une émission, on espère, sur l'actualité des luttes, la place, justement, dont tu en parlais, de Blaise Compaoré dans la politique africaine et comme relais de la politique française en Afrique, et d'autres choses sur le Burkina. Voilà, on va conclure cette émission sur Thomas Sankara.
C'est difficile après cette émission riche et vraiment qui nous laisse un petit peu comme ça et sur l'envie de oui et puis envie d'en savoir plus, voilà, de rentrer mieux dans les...
On salue tous nos auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine et
merci à Bruno Jaffray, vraiment,
voilà, c'était... merci à Bruno et puis à bientôt sur 106.3.
Jam.